Vous écoutez, on lit pour vous.
Montréal abolit ses collectes locales de déchets dangereux. Un texte de Ariane Kroll, paru le 27 avril 2026 dans la presse. La ville de Montréal abolit ses 36 collectes annuelles de résidus domestiques dangereux, RDD, jugées trop chères. Une coupe qui suscite déception et crainte pour l'environnement. Une vieille imprimante, un lecteur VHS, des contenants aérosols. Daniel Leblanc, qui habite Tétroville et n'a pas d'auto, comptait apporter ses objets électroniques et RDD à pied, dans son petit chariot à roulettes, à la prochaine collecte itinérante de son arrondissement. Or, ce service a été aboli, l'a informé l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je suis bien découragée, témoigne Madame Leblanc, pour qui il n'est pas question de mettre ses déchets aux poubelles. Les collectes itinérantes de RDD acceptaient souvent d'autres rebuts, produits électroniques, climatiseurs résidentiels, pneus, etc. Elles ont vu le jour en 1989, au moment où les écocentres et les points de dépôt au cœur des quartiers n'existaient pas. Et leur coût est très élevé, a justifié une porte-parole de la ville, Camille Bégin, par courriel. Aujourd'hui, Montréal compte 7 écocentres et plus de 450 points de dépôt au cœur des quartiers. Sauf que ces points de dépôt, comme les pharmacies qui acceptent les piles, prennent un nombre trop restreint de matières, de sorte qu'il faut en visiter plusieurs, objecte Madame Leblanc. Aller là en transport en commun, c'est assez complexe en partant de l'Est. Ma journée va y passer. La collecte de cet arrondissement était également populaire dans l'édifice de 75 condos où habite Mireille Bénard. On en faisait la promotion sur le groupe Facebook de l'immeuble. Plusieurs copropriétaires allaient porter leurs contenants et autres objets. Les gens vont devoir se déplacer ou ne le feront pas dans les écocentres. La majorité de ce qui était ramassé par les collectes mobiles se retrouvera dans les poubelles ou terrains vagues, prévoit un autre résident du quartier, Sylvain Caron. Bien que les citoyens ont accès à des points de dépôt de récupération ou de réemploi de produits électroniques, un nombre encore trop important de produits électroniques en fin de vie utile se retrouve en bordure de rue, lors des collectes de matières résiduelles, a d'ailleurs reconnu l'arrondissement dans une résolution en 2022. Jusqu'à l'an dernier, Montréal offrait des collectes dans 7 arrondissements et 9 villes liées. Des maires de banlieue se plaignent d'avoir été mis devant un fait accompli. À Beaconsfield, les 2 collectes annuelles ont recueilli près de 27 tonnes de matière en 2025. Des résidents plus âgés ont contacté la ville pour dire à quel point ce service était important pour eux et qu'il serait illusoire de croire qu'ils étaient en mesure de se rendre facilement à un écocentre comme le suggère Montréal, nous a écrit le maire, Martin Saint-Jean. Une crainte bien réelle est que certains citoyens, faute de meilleures options, mettent aux ordures ce qui pourrait faire l'objet d'une collecte sélective. Montréal a réalisé une analyse rigoureuse des coûts et de l'utilisation du service, qui a démontré un rapport coût-efficacité nettement défavorable, fait valoir Camille Bégin de la Ville-Centre. Le coût par tonne de RDD est près de 6 fois plus élevé avec une collecte itinérante qu'en écocentre, soit 2 332 $ contre 409 $. Ces coûts par tonne représentent la moyenne des coûts annuels de 2018 à 2025. Offrir des collectes itinérantes de RDD a coûté 510 522 $ au total l'an dernier. En 2026, la facture aurait grimpé de presque 8 % 549 116 $, estime la ville. Ces sommes ne tiennent pas compte des autres rebuts, objets électroniques, pneus, etc., acceptés dans les collectes locales. On est conscient que Montréal a de grands défis, mais je ne sais pas si les élus comprennent l'impact environnemental que ça va avoir. C'est beaucoup plus grave que les 500 000 $ dans leur budget, a réagi la mairesse de Bedurfi, Heidi Ekvedt. C'est pas vrai que monsieur ou madame tout le monde va se promener partout, peinture ici, batterie là, pneus ailleurs. Ils vont les laisser au bord de la rue. La ville de Québec, qui organise 8 écocentres mobiles par an dans des quartiers centraux et des villes de l'agglomération, n'envisage pas de les abolir, au contraire. Elle pense plutôt en augmenter la fréquence, indique son plus récent plan de mise en œuvre en matière de gestion des matières résiduelles. La popularité de la formule et sa capacité à détourner d'importantes quantités de matières, dont des résidus domestiques dangereux, nous démontre sa totale pertinence, a souligné la ville par courriel. C'était « Montréal abolit ses collectes locales de déchets dangereux », un texte d'Ariane Kroll, paru le 27 avril 2026 dans La Presse.
Laval devient la troisième plus grande zone de construction en Amérique du Nord. Un texte de Martin Jolicoeur et Pierre-Paul Poulain, paru le 8 avril 2026 sur tvanouvelles.ca. Propulsé par un développement résidentiel sans précédent, au cœur d'un secteur appelé à devenir son centre-ville, le ciel de Laval serait devenu l'un des endroits sur le continent à compter le plus de grues en activité. C'est du moins la prétention de l'Hôtel de Ville qui, à l'occasion d'une conférence de presse de Montréal International la semaine dernière, a fait dire à l'un de ses conseillers que la ville de la rive nord de Montréal se classait désormais au troisième rang en Amérique du Nord, derrière Los Angeles et Toronto, quant au nombre de grues en activité. Près du boulevard du Souvenir, au sud du boulevard Saint-Martin, Laval fait partie des trois villes en Amérique du Nord où le nombre de grues serait le plus élevé. Sans pouvoir confirmer les prétentions de la ville, Alain Doyle, directeur du syndicat des grutiers, section locale 717 de FTQ Construction, confirme que Laval est possiblement l'un des territoires dans la province, si ce n'est au pays, où les grues sont le plus présentes. Il y a une forte activité, mais pas encore au point où l'on peut parler de pénurie de grutiers, nuance-t-il. Quand la construction va? Vérification faite, Laval a bien dénombré un sommet de 33 grues sur ses chantiers l'été dernier. À peu près au même moment, la société américaine Ryder Leavitt Bucknell dénombrait 106 grues en activité à Toronto et 42 à Los Angeles, permettant à la voisine de Montréal de prétendre faire partie des villes les plus actives sur ce plan. Quand la construction va, tout va, se réjouit en entrevue le maire de Laval, Stéphane Boyer, pas peu fier de voir le fruit de leurs efforts se concrétiser. En outre, fait-il valoir, 80 % des projets en cours ont pu recevoir leur permis de la ville deux fois plus rapidement que par le passé. Plus d'habitations, c'est un moyen de lutter contre la crise du logement et des prix qui montent en flèche. C'est aussi un moyen de stimuler l'économie locale, de soutenir les emplois de la région et les services que nous offrons aux citoyens. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Tout juste à l'ouest du carrefour Laval, plusieurs tours résidentielles sont en construction. Un jour, laisse entendre le maire, de vastes espaces de stationnement du carrefour seront transformés en lieux de vie, composés à 25 % d'espaces verts. Au début de 2026, Laval ne comptait plus que 28 grues, un nombre qui a légèrement décru à 24 depuis. Mais ce nombre pourrait encore remonter dès le retour de la saison chaude, fait valoir un porte-parole du cabinet de la mairie. Enfin, un centre-ville. Pour l'heure, ces dizaines de grues se concentrent dans un vaste quadrilatère considéré comme le futur centre-ville de Laval. Près de l'espace Montmorency, une tour de plus de 200 unités d'habitation en copropriété est actuellement en construction. De part et d'autre de l'autoroute 15, cette zone est située au sud de l'autoroute 440, entre le carrefour Laval au nord, l'ancienne carrière Lagacé au sud, futur Carré Laval, et l'espace Montmorency à l'est. En 2025, Laval a d'ailleurs assisté à la mise en chantier d'un record de 4613 unités d'habitation, soit plus du double des quelques 2023 unités mises en chantier pendant toute l'année précédente. En comparaison, sur la même période, les nouvelles constructions ont crû de 16,3% au Québec et de 58,1% dans le Grand Montréal. Cette croissance s'explique principalement par une hausse des projets locatifs. De toutes ces mises en chantier, 4071 d'entre elles, soit 88% du total, s'ajouteront au marché de la location, selon la SCHL. Ces projets prennent la forme de tours d'habitation s'élevant parfois jusqu'à 25 étages. Laval prévoit ainsi que 54 000 nouvelles unités d'habitation seront construites sur son territoire d'ici 10 ans. C'était « Laval devient la troisième plus grande zone de construction en Amérique du Nord », un texte de Martin Jolicoeur et Pierre-Paul Poulin, paru le 8 avril 2026 sur tvanouvelles.ca.
Environnement Canada, grâce à l'intelligence artificielle, les prévisions météo canadiennes bondiront vers l'avenir. En sous-titre, pendant que de nombreux pays adoptent des modèles de météo basés sur l'IA, le privé se taille une place dans le secteur. Un texte signé Alexis Riopel, publié dans Le Devoir du 17 avril 2026. D'ici quelques semaines, les prévisions météo d'Environnement Canada bénéficieront d'un gain soudain de précision équivalent à une décennie d'amélioration incrémentale de ces modèles classiques. Comment? Grâce à l'introduction de l'intelligence artificielle. L'arrivée de l'IA au sein du service canadien témoigne d'une vague de fond qui déferle partout sur la planète météo. Depuis 2024, ces outils de statistiques avancées rattrapent les modèles classiques basés sur la physique, et leurs calculs sont, dans certains cas, 1000 fois plus rapides. L'émergence de ces modèles, encore imparfaits, bouscule ce qui était jusqu'à présent la chasse gardée des grandes agences gouvernementales pourvues de superordinateurs. Avec Google, Microsoft et Nvidia, le secteur privé s'est lancé dans la prévision météo. Pour demeurer à la pointe, Environnement Canada s'apprête donc à adopter un modèle, entre guillemets, hybride, fin des guillemets, qui combine l'architecture traditionnelle et l'intelligence artificielle. Citation. Avec cette approche, on a le meilleur des deux mondes, explique Stéphane Beauregard, un responsable de ce chantier au ministère. Le modèle d'intelligence artificielle a été « entraîné » entre guillemets, grâce à une reconstruction des variables météorologiques, température, pression, humidité et autres, des 50 dernières années. Cette reconstruction ou réanalyse est fondée sur d'innombrables observations prélevées par satellites, des ballons sondes et des capteurs au sol ou en mer. Contrairement au modèle traditionnel, qui calcule la météo des prochains jours en résolvant les équations de la physique atmosphérique, les modèles d'IA n'encodent pas les lois de la nature. Ils arrivent néanmoins à prévoir la pluie et le beau temps en extrapolant les relations qu'ils ont distillées à partir des données historiques. M. Beauregard explique que le modèle d'intelligence artificielle d'Environnement Canada se distingue par sa capacité à anticiper beaucoup plus tôt les systèmes météorologiques majeurs, comme les tempêtes de neige. Il est toutefois moins efficace pour détailler ses prévisions à une échelle fine, et il ne donne pas certaines variables, comme la pluie verglaçante. La solution? Le modèle hybride repose sur l'IA pour les grandes échelles, 2500 km et plus, mais utilise un modèle physique pour calculer les détails. Selon Environnement Canada, ces prévisions sur 6 jours seront aussi précises que celles obtenues aujourd'hui sur un horizon de 5 jours. Dans le dernier demi-siècle, les modèles traditionnels ont gagné environ une journée de précision tous les 10 ans. Un échec des sciences naturelles? En Europe, le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme offre des prévisions fondées sur l'intelligence artificielle depuis février 2025. Plusieurs indicateurs de performance ont connu une amélioration de 20% par rapport au modèle classique. Pour faire ces calculs, le modèle d'IA consomme jusqu'à 1000 fois moins d'énergie. Les météorologues peuvent se référer aux 2 outils pour élaborer leurs prévisions. Aux États-Unis, la National Oceanic and Atmospheric Administration a lancé en décembre 2025 un nouveau modèle météorologique fondé sur l'intelligence artificielle. L'outil utilise 99,7 moins de ressources de calcul que son équivalent traditionnel. Adjoint au modèle classique, il permet d'allonger la portée des prévisions de 18 à 24 heures. Personne ne sait si les modèles d'IA vont un jour entièrement remplacer les modèles physiques. Chose certaine, les faiblesses de l'IA dans les fines échelles spatiales n'ont rien d'un obstacle insurmontable. Est-ce à dire que les sciences naturelles connaissent un échec face à une calculatrice qui n'a pas la moindre notion des lois de la physique? Citation. Je dirais plutôt que c'est un succès de la science interdisciplinaire parce que tous les progrès de l'IA seraient impossibles sans la contribution des sciences de la Terre, répond Alex Hernandez-Garcia, un membre de MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle qui s'intéresse à l'intelligence artificielle dans les modèles climatiques. NVIDIA saute dans l'arène. Sans surprise, Google et Microsoft ont chacune développé ces dernières années leurs modèles météo carburant à l'IA, respectivement nommés GenGraph 2023 et Aurora 2025. L'architecture du modèle de Google est d'ailleurs disponible en source libre et c'est sur ce code informatique qu'Environnement Canada a bâti son propre modèle. Avant d'aboutir dans les bulletins météo officiels, les résultats des modèles sont toujours interprétés par des météorologues. Malgré cette belle performance, la compétition est féroce et l'obsolescence guette. En janvier 2026, le concepteur de puces électroniques NVIDIA présentait une « famille » entre guillemets de modèles météo fondés sur l'intelligence artificielle. Ces modèles, préalablement entraînés, sont disponibles en code de source libre. L'un d'eux propose des prévisions à très haute résolution, ce qui représente une avancée majeure. Israël et Taïwan ont déjà adopté ces modèles. Entraîner les modèles avec les données historiques demande beaucoup de puissance de calcul. Mais une fois cette étape terminée, il est possible de pondre des prévisions météo avec un seul ordinateur. Évidemment, il faut initialiser le système avec les conditions météo actuelles mesurées par les agences gouvernementales. Une jeune pousse californienne, Wynn Bourne, W-I-N-D-B-O-R-N-E, en un seul mot, commence toutefois à réaliser ses propres observations. Elle lance des ballons-sondes de longue portée afin d'alimenter son modèle météo. En juillet 2025, elle disait relâcher 300 ballons par mois à partir de 10 sites dans le monde. Son objectif? Bâtir un système nerveux planétaire, avec un jour 10 000 ballons en vol dans le ciel. Le défi du climat qui change. Dans l'immédiat, pour rehausser la qualité des prévisions météo générées par l'IA, il faudra imposer des restrictions basées sur la physique, croit M. Hernandez-Garcia. Ces garde-fous permettront d'éviter que les interférences statistiques des modèles s'écartent de la réalité. On peut argumenter que cela consiste en quelque sorte à enseigner les sciences à l'intelligence artificielle. De telles balises pourraient aider les modèles d'IA à relever un défi délicat, prévoir les événements météorologiques extrêmes et inédits rendus possibles par les changements climatiques. Cela s'annonce difficile, puisque leurs prévisions sont fondées sur les données historiques. Pour cette raison, les modèles physiques demeurent très importants, souligne M. Hernandez Garcia. Et c'est ainsi qu'Alexis Riopel met un terme à sa chronique titrée « Grâce à l'intelligence artificielle, les prévisions météo canadiennes bondiront vers l'avenir », texte publié dans Le Devoir du 17 avril 2026.
Dans les archives de Fugue, une chronique de Nicolas Vandal, parue le 22 avril 2026 dans le magazine Fugue. C'était un mardi gris d'hiver, le genre de journée où même Montréal semblait fatigué. Je suis arrivée aux archives gays du Québec pour fouiller dans les anciens numéros de Fugue. Je cherchais un angle original pour souligner le 500e. J'espérais qu'une idée me saute dessus entre deux vieilles pubs de sauna. Simone, l'archiviste, m'a montré où étaient les boîtes. J'ai commencé par celles des années 84 à 89. Le magazine tenait presque dans une main. Le papier était fragile et jauni par le temps. Il y avait beaucoup de pubs de bar, le PJ, le Club David, la boîte en haut, le gant de velours, les Quos. On y annonçait des expos à l'androgyne et des films au cinéma du village. Des places fermées depuis une éternité, mais les voir là me donnait presque l'impression qu'elles étaient encore ouvertes. Je dois avouer que les photos de gars dans les premiers numéros ont pas mal monopolisé mon attention. Disons que Fugue ne laissait aucune place à l'imagination. C'était typique des magazines gays de l'époque. Pourquoi se censurer quand le reste de la société faisait tout pour qu'on ne nous voie pas? Puis, ça devait être pas mal plus satisfaisant que de se rabattre sur le catalogue Sears pour contempler la beauté masculine. Le magazine n'était pas là juste pour permettre aux gars de se rincer l'œil. Dès le début, le docteur Régent Thomas informait les lecteurs de l'apparition du sida. Il recommandait aux gens de passer un test cutané pour savoir s'ils étaient porteurs d'une bonne immunité. C'était le seul outil disponible avant l'arrivée du test de dépistage en 1985. C'était particulier de lire qu'il n'y avait, à ce moment-là, que 5000 cas aux États-Unis. Yves Lafontaine, notre rédacteur en chef, a déjà raconté en entrevue qu'à l'époque, plusieurs s'étaient plaints. Ils criaient à la désinformation, disaient que c'était faux, jusqu'à ce que la maladie frappe fort ici aussi. Dans le numéro de mars 1987, je suis tombée sur une petite révolution, l'arrivée de Claudine Metcalfe. Elle a débarqué dans l'équipe comme une gazelle parmi les fauves pour enfin donner la parole aux lesbiennes. Sa première chronique pose la question « Où êtes-vous, mesdemoiselles ?» Elle restera 16 ans et dira elle-même que cette longévité a été possible grâce aux gens de Fugue. Citation « Les lesbiennes continuent d'être moins impliquées que les gays, mais elles ne peuvent reprocher aux gars de Fugue de ne pas vouloir leur faire une place qui leur revient. » Fin de citation. Depuis 2017, c'est Julie Vaillancourt qui a pris le flambeau avec sa rubrique « Où sont les lesbiennes ?» Comme quoi, on n'a toujours pas la réponse. J'ai ouvert la boîte des années 90. Le magazine a pris du galon. On y trouvait encore plus d'entrevues, de photos de soirées, de la pub, des idées de sortie. Son format m'a tout de suite fait penser à un TV hebdo. En même temps, tout était loin d'être réglé. Il y avait encore de l'homophobie et des droits à acquérir et un virus qui ravageait la communauté. On parlait beaucoup du sida, de 00, des comités de lutte pour les droits des couples de même sexe. Dans ce temps-là, les journaux ne mentionnaient pas le sida dans leur nécrologie. Fugue, lui, le faisait. Dans chaque numéro, il y avait des avis de décès d'hommes dont beaucoup avaient environ mon âge aujourd'hui. J'ai pris un moment pour les lire. Ça m'a touchée. Je me suis aussi dit que ça aurait pu être mon chum ou moi si on était né 30 ans plus tôt. Pendant mes fouilles archéologiques queer, je suis tombée sur un dossier de mars 1995 qui portait sur les dragues d'ici. On y présentait Stella Spotlight comme la grand-mère de toutes, celle qui faisait friquer les punks au foufoune électrique. Il y avait Scarabitch, qui chantait rauque comme Janis Joplin, et Ivanovich, qui marquait les nuits du village avec ses imitations légendaires de Nina Hagen. On apprenait que Mado était en Europe, à la recherche du vrai monde, et que Nana de Grèce délaissait un peu la scène pour ses études en théâtre. Le texte nommait aussi Nicole, Daphné de la Vengeance, Huguette Bonnechance, Pico et Georgette. À part Mado et Nana, je ne connaissais personne. Je me suis quand même demandé ce qu'elles étaient toutes devenues. Dans le même numéro, j'ai lu une lettre dans le courrier des lecteurs. Un gars se disait attristé et désemparé que Fugue publie des annonces de gars adeptes de sadomasochisme qu'il trouvait inacceptables. La réponse de l'équipe était excellente. Citation « Fugue a contribué et contribue à notre visibilité. Laissons à tous le droit d'y avoir accès. Il est toujours possible de tourner la page d'une section qui nous déplaît, mais nous n'avons pas le droit de faire disparaître, de censurer une réalité étrangère à notre propre morale. » Fin de citation. Ça résume parfaitement l'esprit du magazine. Arrivé au tournant du millénaire, mes yeux commençaient à me lâcher. Ma réserve de caféine était à sec. Alors, j'avoue que j'ai commencé à passer les pages un peu plus vite. Même à ça, je voyais clairement un changement. Le magazine s'épaissit. Le papier devient glacé. Les chroniques culturelles prennent plus de place. Il y a aussi des visages connus en couverture et en entrevue. Gros bravo d'ailleurs pour avoir réussi à décrocher une entrevue exclusive avec Madonna. Entre des reportages sur diversité et des idées de déco, je suis tombée sur des textes percutants traitant de stigmatisation, de droit ou de l'insécurité persistante dans le village. Le ton reste engagé, mais s'adapte aux nouvelles réalités. Au fond, Fugue a toujours été le miroir de son époque, reflétant avec la même intensité nos luttes, nos joies et nos excès. En refermant la dernière boîte, je n'étais pas nostalgique ni troublée. Je connais assez bien notre histoire. Mais il y a tout un monde entre connaître les faits et les lire de la bouche de ceux et celles qui les vivaient au moment où ça se produisait. C'est un exercice que je recommande à tout le monde. J'ai salué Simone avant de sortir. Montréal était resté gris. En marchant vers le métro, je me suis dit que, sans le papier de Fugue et le travail des archives pour le conserver, plusieurs morceaux de notre mémoire collective auraient simplement été effacés. C'était « Dans les archives de Fugue », une chronique de Nicolas Vandal, parue le 22 avril 2026 dans le magazine Fugue.